VOA Afrique, les infos. À Washington, Nicolas Pinault.
Bonjour à tous, merci de votre fidélité à VOA Afrique. Tout de suite, un point complet sur l'actualité. Il est 16h, temps universel. On commence par la situation en Guinée. De nombreux jeunes ont été dispersés à plusieurs endroits de Conakry, la capitale, par les forces de l'ordre. Les gendarmes ont, selon des témoins, maîtrisé un incendie provoqué près du siège du parti au pouvoir, le Rassemblement du peuple de Guinée, dans un quartier populaire de Conakry à Hamdallaï. Notre correspondant dans la capitale guinéenne, Zakaria Camara, nous signale que la maison de Sélou Dalein Diallo, le leader de l'UFDG, était encerclée ce matin par les forces de l'ordre. À la baie, en revanche, la mobilisation aurait été plus forte. Joint par VOA Afrique, Lali Diallo, militant de l'UFDG, affirme qu'un manifestant serait mort à la baie. Son corps se trouverait à la morgue. Aucune confirmation du gouvernement pour le moment. On écoute ce témoignage depuis la baie.
Aux hôpitaux, le matin, tous les militants de l'opposition se sont retrouvés dans les rues de la baie pour faire la marche pacifique demandée par l'opposition. Mais très malheureusement, à 6h du matin, tous les carrefours étaient pris par les forces de l'ordre. Même le siège de l'IFTG a été encerclé tôt le matin, mais personne ne s'y trouvait en ce moment. La marche a débuté aux environs de 9h, 9h30. Les forces de l'ordre, elles ont essayé de disperser les gens. Ils ont tiré sur les manifestants des gaz lacrymogènes et même des balles réelles. Ils ont même tué un jeune nommé Boubacar Sadio Diallo, âgé de 27 ans, originaire de Dalein. Il est actuellement là à la morgue de l'hôpital régional de la baie. Il y a un accrochage entre forces de l'ordre et manifestants. Toutes les routes sont barricadées, toutes les boutiques sont fermées, toutes les activités sont ralenties à la baie. Il n'y a que jets de projectiles et tirs et gaz lacrymogènes entre manifestants et forces de l'ordre.
Voilà pour ce témoignage de Lali Diallo, militant de l'UFDG. Il était joint à l'abbé par Idriss Fall. Je vous rappelle que l'opposition guinéenne réclame une inversion du calendrier électoral. Actuellement, les élections locales sont prévues en 2016 et l'élection présidentielle en le 11 octobre 2015. Récemment sur VOA Afrique, Alpha Condé, le président de la Guinée, a rappelé qu'il était techniquement impossible de revenir sur l'organisation de ces élections locales pour 2015. Les suites de l'arrestation en RDC de l'ex-ministre centrafricain Romaric Vomitiadé, condamné dans une affaire de mœurs à Bangui. Il s'était enfui et avait traversé la frontière congolaise. Kinshasa assure vouloir l'extrader. C'est Alexis Tambwe, le ministre congolais de la Justice, qui a mis fin au suspense ce jeudi lors d'une conférence de presse. Dernier jour de campagne au Togo, les deux poids lourds font leur dernier meeting dans leur fief. Selon Kailosson, notre correspondante à Lomé, Fornia Simbe, le président sortant, est à Kara. Et Jean-Pierre Favre, son challenger principal, tient un meeting au stade de Lomé. Je vous rappelle que le Togo tiendra samedi une élection présidentielle. Le président sortant, Fornia Simbe, brigue un troisième mandat face à quatre concurrents, dont Jean-Pierre Favre. Les soldats ont voté par anticipation et Amnesty International dénonce les agissements de l'armée, l'accusant d'avoir déjà tiré à balles réelles sur des manifestants. Idriss Fall a joint François Patuel, chercheur d'Amnesty International pour l'Afrique de l'Ouest.
VOA Afrique, une fenêtre sur le monde.
Voilà, vous avez reconnu évidemment la bande qui n'est pas partie, mais on va continuer sur VOA Afrique à vous parler évidemment de ce procès à huis clos du journaliste angolais Rafael Marquez. Il est poursuivi par 7 généraux pour dénonciation calomnieuse. Il est évidemment, selon l'AFP, cet accord à l'amiable pourrait être trouvé entre les deux parties. L'affaire a commencé avec la publication en 2011 au Portugal du livre Les Diamants du Sang, Torture et Corruption en Angola. Rafael Marquez y accuse les généraux d'avoir cautionné des crimes contre l'humanité, contre la population de la région diamantifère des Lundas. C'est dans le nord-est de l'Angola. Plus de 500 000 personnes meurent chaque année des suites du paludisme. En 2013, il y a eu 198 millions de cas dans le monde. 584 000 personnes sont mortes, ajoute l'OMS dans un rapport présenté lors d'une conférence de presse, précisant que 90% des cas sont situés en Afrique. Par ailleurs, en 2013, 437 000 enfants africains sont morts avant leur 5e anniversaire en raison de la malaria, selon l'agence onusienne. Le chef de l'État kényan, Uhuru Kenyatta, a suspendu ce jeudi le président et la vice-présidente de la commission anticorruption, tous deux visés par une procédure de destitution lancée par l'Assemblée nationale, alors que l'organisme enquête sur plusieurs hautes personnalités. Les députés kényans ont voté mercredi la création d'une cour spéciale devant se prononcer sur le limogeage de Mutumu Matemu et d'Irene Keino, leur attribuant les dysfonctionnements de l'EACC, minés depuis des mois par des rivalités internes et des soupçons de détournement et accusations d'inaction. Aux États-Unis, la grande majorité des entreprises américaines étudiées par les ONG Amnesty International et Global Witness ne respectent pas les obligations de la loi Dodd-Frank qui leur demande de refuser les minerais provenant des zones de conflit. C'est ce qu'affirment les deux ONG en question dans un rapport. Pour plus de détails, écoutons Evie Frank, spécialiste de la RDC à Amnesty International.
En 2014, juste pour donner un peu de contexte, en 2014, c'est la première année dans laquelle plus d'un millier d'entreprises ont remis un rapport sur l'usage des minerais provenant des zones de conflit à la Security and Exchange Commission. Amnesty et Global Witness, nous avons pris un échantillon de ces entreprises. Nous avons sélectionné une centaine d'entreprises. 50 d'entre eux sont les 5 plus importants de 10 secteurs d'activité différents. Et les 50 autres ont été choisis de manière aléatoire avec un programme informatique. Après, ce que nous avons fait, c'est de fixer 10 critères pour évaluer la qualité des rapports qui sont soumis à la Security and Exchange Commission, sur base desquels on a fait une évaluation des efforts de diligence que ces entreprises ont fait. C'est sur base de ça que nous, on a conclu que presque 80% des entreprises ne vérifient pas correctement le produit qui contient des minéraux provenant des zones de conflit. Mais nous aimerons aussi clarifier que ça veut dire que quand même une entreprise sur 5 a bien respecté la loi et ils ont mis en œuvre leur devoir de diligence. Ils ont prouvé que c'est bien possible d'appliquer ce devoir de diligence et ainsi ils ont écarté l'argument des entreprises que la mise en œuvre d'un devoir de diligence sera trop compliquée ou trop coûteuse. Et donc, Amnesty et Global Witness regrettent aussi que ces grandes entreprises et les groupes d'industrie ils ont dépensé beaucoup d'argent et beaucoup de temps pour combattre la loi, plutôt que d'utiliser cet argent et ce temps pour mettre en œuvre cette loi.
Les entreprises qui ne se sont pas contentées de démarches auprès de leurs fournisseurs directs, mais qui ont pris contact ou tenté de prendre contact avec les fonderies, les affineries qui transforment les minerais, elles montrent vraiment la voie, elles montrent que ça peut se faire.
Oui, effectivement, et c'est ça en fait un des conclusions principales de notre rapport, c'est que c'est possible, c'est vrai que ça demande un effort, ça demande un investissement et du temps. Il faut que les entreprises aient établi une politique pour identifier les risques dans leur chaîne d'approvisionnement. Ils doivent vraiment faire les études pour clarifier leur propre chaîne d'approvisionnement parce que souvent, les entreprises ne savent même pas d'où viennent ces minéraux. Mais donc, 21% des entreprises que nous avons étudiées, ils ont fait ces efforts et que c'est bien possible de le faire.
Evie Frank d'Amnesty International, elle était jointe par Camille Gros-Didier. Retour sur l'arrestation et la possible extradition de Romaric Vomitiédé. Depuis la RDC, condamnée à une affaire de mœurs à Bangui, le ministre s'était enfui et aurait traversé la frontière congolaise. Kinshasa assure vouloir l'extrader. C'est Alexis Thambwe Mwamba, le ministre congolais de la Justice, qui a mis fin au suspense jeudi lors d'une conférence de presse. On l'écoute.
Nous avons effectivement dans nos services l'ancien ministre de la jeunesse centrafricain, il était ministre jusqu'il y a quelques mois, qui a été condamné chez lui pour un viol de mineurs et qui a fui la prison, enfin n'a pas fui la prison, il avait demandé une autorisation pour aller se faire soigner. Et de là il a fui, il a traversé le Bangui et il est allé à Zongo. Lorsque nos services ont été informés, nous avons demandé qu'il soit acheminé à Kinshasa. Il est à Kinshasa en garde à vue. Hier, j'étais en communication téléphonique avec le ministre centrafricain de la Justice. Et lorsque nous recevrons une demande d'extradition, nous allons leur expédier dans son pays.
Voilà, c'était Alexis Thambwe, le ministre congolais de la Justice.
La Voix de l'Amérique en direct de Washington.
Barack Obama annonce ce jeudi la mort de deux otages occidentaux tués par erreur en janvier lors d'une opération américaine à la frontière pakistano-afghane contre Al-Qaïda. Le président américain assume la pleine responsabilité de cette tragédie pour laquelle il a présenté ses excuses aux familles. Et puis parlant également du sommet européen extraordinaire consacré aux migrants, le président français a directement mis en cause son prédécesseur. Selon François Hollande, il faut évidemment réparer les erreurs du passé en Libye. Une allusion évidemment directe à son prédécesseur Nicolas Sarkozy. Un mot de sport pour vous dire que la Chine va construire le stade olympique d'Abidjan, 60 000 places, en vue de l'organisation de la Coupe d'Afrique des Nations. Ce sera en 2021 en Côte d'Ivoire. Voilà, prochain point sur l'actualité sur VOA Afrique, 17h, temps universel. À très bientôt.
Soyez au cœur de l'info sur